France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
La revue de presse, bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour.
Claude, on parle du Vatican ce matin.
Le Vatican qui serait une grande communauté homosexuelle qui dissimule sa vérité. Je doute que même dans le Castro de San Francisco, ce quartier gay emblématique, il y ait autant d'homos, dit au point le journaliste Frédéric Martel, lui-même ouvertement homosexuel, et qui a passé 4 ans à enquêter sur le Vatican pour un livre qui sort la semaine prochaine et fait donc, après le Guardian hier, les délices du point. Le livre s'appelle Sodoma, titre biblique et scandaleux. Il va s'épicer de quelques scènes voyeuristes. Une fête chemsex gay, comprenez, une partie fine homosexuelle avec drogue organisée par un prêtre au Vatican, ou un cardinal colombien amateur de prostituées mâles et de séminaristes, ou une cérémonie félinienne organisée par le pape Benoît XVI en l'honneur de son beau secrétaire Georges Ganswein, dont on disait qu'il était encore plus beau que Georges Clooney. Mais c'est d'abord un livre politique qui veut expliquer le mal de l'Église par le déni, et c'est une longue histoire que Martel embrasse d'une Église qui fut liée au paria quand l'homosexualité dans la société était tabou. Pour un jeune homosexuel né dans un village italien, il y a encore quelques décennies, entrer dans les ordres, c'était passer de paria à élu. Vous vous retrouvez entre garçons, votre mère trouve que c'est une bonne solution, car elle a compris votre secret, et les copains d'école qui faisaient de mauvaises blagues vous prennent désormais pour un saint. Et dans un monde homophobe, l'église était donc un refuge, dit Martel, où régnait une homophilie, l'amour des hommes tempéré par la chasteté et le renoncement. Oui, mais quand est venue la libération des mœurs, le refuge est devenu une prison. Misogyne, coupée de la société et un mensonge, l'église sous Jean-Paul II et Benoît XVI, dit Martel, a muté homophobe, opposée au préservatif en dépit du sida, comme au mariage gay, et d'autant plus homophobe qu'elle masquait sa propre vérité, et mentant sur lui-même, le Vatican fut aussi incapable d'affronter le mensonge de la pédophilie. Le pape François serait, selon Martel, un libérateur par la vérité. Le pape François, la semaine prochaine, ramène l'Église et veut la forcer à affronter le scandale des abus sexuels sur les mineurs. Vous lirez dans La Vie une bonne interview de l'archevêque de Marseille, Georges Pontier, qui parle de l'humilité que doit retrouver l'Église, mais ses belles paroles restent obérées par ce nuage du passé, par l'histoire de l'Église que révèle ou que suppose Martel dans Le Point.
On parle beaucoup d'histoire également, Claude.
Et on en parle au présent, car nous avons besoin de repères quand tout s'effondre. Le Monde revient sur le mystère de Jeanne Calment, dont les 122 ans à sa mort sont contestés, on le sait, par des Russes. Et c'est entre Arles et la Russie une enquête picaresque sur cette vieille dame qui goûtait la célébrité et dont l'ADN a été conservé. Alors on pourrait, si l'on voulait, savoir, me dit Le Monde. Bordeaux, qu'Alain Juppé quitte pour le Conseil constitutionnel, a peur de sortir de l'histoire, je le comprends, dans Sud-Ouest, puisque le prochain maire, contrairement à Juppé ou à Chaban-Delmas, ne sera plus une figure nationale. L'Obs traite ce matin de la Chine et de ses conquêtes comme un livre d'histoire pourra dans un siècle en passé en parler, dossier mené par une journaliste Ursula Gauthier qui fut chassée de l'Empire. On parle de l'histoire, c'est encore dans l'Obs, mais sur son site internet, Bibliobs, qui reprend un texte publié par son blog, par l'historien Gérard Noiriel, lequel Noiriel s'en prend à un autre historien, Patrick Boucheron, que nous reçûmes dans cette matinale il y a exactement une semaine. Boucheron, il fut critique envers les gilets jaunes et l'émeute qui n'est pas une émancipation. Noiriel n'est pas d'accord sur le fond, mais son propos est ailleurs. Il conteste et il nous conteste d'avoir dit que le jugement de Boucheron était qualifié d'un regard d'historien, car enfin, dit Noiriel, Boucheron vient d'écrire un livre sur un évêque du IVe siècle, ça ne le qualifie pas pour observer un mouvement populaire du XXIe siècle. C'est le citoyen Boucheron, électeur de Macron, qui parlait, dit-il, et non l'historien dont la parole est lestée du passé. Noiriel lui rappelle au passage qu'il est un spécialiste de l'histoire populaire.
Mais on prend la critique et on l'entend. Hein.
Et on entendra peut-être Noiriel ici, on
avec
l'a déjà
plaisir.
Entendu.
Ouais.
Il faut donc aller bien loin dans le passé pour nous comprendre. Encore dans l'Obs, tiens, propos de Richard Wilkinson, qui est professeur en épidémiologie sociale en Angleterre. Le besoin d'égalité qui nous anime vient des origines de notre espèce, dit-il, quand nous étions des chasseurs-cueilleurs, forcés de construire des groupes égalitaires pour chasser de grandes proies et survivre ensemble. Alors les inégalités nous sont une souffrance comparable à la douleur physique. Est-ce cette douleur physique qui anime les gilets jaunes et les sorts d'eux-mêmes, comme ce boxeur à la voix douce, condamné hier et dont l'équipe entre autres parle? Est-ce cette douleur physique qui anime la Fondation Abbé Pierre, qui conteste et qui dénonce dans ses pics d'or les dispositifs anti-SDF des rues de nos villes? C'est dans Le Parisien et dans La Dépêche. Je lis aussi dans La Dépêche que le restaurant L'Ambroisie à Colomiers d'un chef anti-gilet jaune a de nouveau été attaqué. Et ça vient d'où?
On parle de second rôle enfin pour finir.
Et c'est toujours de l'histoire qui a ses oubliés. Dans Libération, une historienne, Judith Lioncan, raconte la société du 19e siècle et ses prostituées, même ses rêves érotiques, à partir d'une nouvelle de l'écrivain Barbet d'Aurevilly. Mais c'est surtout aujourd'hui le Figaro qui m'enchante. À la une, le journal nous alerte contre les écrans qui menacent nos enfants. Qu'importe, allez au cahier littéraire. On y parle de Sandy Allen, qui fut une géante qu'Emma Fellini. On nous parle de Jean Kopitovitch, patriote yougoslave, tué par les Allemands en 1943. On y parle d'Aaron Swartz, qui fut un pionnier de l'Internet libre et qui se suicida à 26 ans en 2013. On y parle de Gerda Taro, aux yeux magnifiques, photographe allemande tuée pendant la guerre d'Espagne et qui aimait le grand Robert Capa. Et tous ces oubliés renaissent au bonheur de livres que le Figaro rassemble ce matin. Je vois aussi d'un indépendant fidèle à lui-même de belles photos de l'exode des républicains espagnols en 1939, car cet exode fut aussi une réinvention du photojournalisme. La presse fugace, alliée aux livres et aux artistes, est plus juste ce matin que l'histoire oublieuse.
Merci Claude pour cette revue de presse.